Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. C'est la première fois que je reçois une architecte de formation dans le podcast et j'en suis très heureux. Aurélie nous offre une vision différente de l'engagement avec un rapport à l'espace, l'urbanisme et la ville que l'on aborde rarement dans les récits de vie de Oser. Elle est aujourd'hui investie dans la transition écologique à travers le traitement des déchets organiques. Récemment, elle a participé à la conférence en ligne « Accélérer la transition avec ses déchets » dont le replay est disponible sur le site du podcast si jamais vous souhaitez approfondir le sujet après cet épisode. Je vous laisse maintenant découvrir son parcours. Bonne écoute! Bonjour Aurélie!
Bonjour.
Tu es diplômée de l'École Bleue en architecture intérieure et design et tu as travaillé dans ce milieu en indépendante et pour de grands groupes comme le Bon Marché avant de lancer Cocotarium en 2016 qui est une solution ludique et pédagogique pour sensibiliser au tri des biodéchets à la source. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ton engagement ?
Oui, alors effectivement j'ai été diplômée en 2011 de l'École Bleue. Qui est une école qui m'a beaucoup apporté sur la liberté de pouvoir m'exprimer et de pouvoir aller au bout des choses, en fait. Ils m'ont laissé beaucoup de liberté dans ça. J'étais pas toujours très conventionnelle dans ma façon d'aborder l'architecture et c'était pour moi... l'architecture, il y avait une vraie responsabilité, c'est-à-dire que moi, j'étais passionnée par les phénomènes sociologiques et par la vie des gens, en fait. C'est une forme de voyeurisme, mais plutôt sain, sur comment vivent les gens dans leur intimité, comment les gens vivent par rapport à un espace, par rapport à un objet, et qu'est-ce que ces objets veulent dire dans notre société et dans notre intimité. Et je me suis très vite dit que si on voulait changer les choses, si on voulait changer la perception qu'on a du monde et y avoir un petit peu d'impact, bah ça pouvait se faire dans notre environnement, dans ce qui constitue notre ville, nos campagnes, etc. Et que l'architecture structurait en fait notre façon de vivre. Le fait d'être éloigné des centres-villes va générer une vie différente. Le fait, moi je donne souvent un exemple qui est à titre plutôt dans l'espace intime, c'est lorsque Charlotte Perriand a ouvert les cuisines et que d'un seul coup la place de la femme a changé puisqu'elle avait une interaction directe avec ses invités, avec sa famille, au lieu d'être enfermée dans son espace de cuisine. Et c'est un peu ça. Enfin, moi, je trouve que cet exemple est très fort parce qu'il dit beaucoup de la société et il est transposable à une plus grande échelle, à l'échelle de l'urbanisme. On se dit, bah oui, effectivement, l'architecture a un impact dans nos vies. Je parle souvent des bancs publics, par exemple, et leur rôle dans la société. Le fait qu'on mette aujourd'hui, c'est des objets un peu désuets, un peu qui donnent pas forcément envie aux gens de s'y arrêter, de s'y installer. Et pourtant, c'est des objets où beaucoup de gens se retrouvent pour boire une bière, c'est un lieu de sociabilisation, des personnes âgées qui vont se déplacer dans la ville, qui vont s'arrêter sur ces bancs pour faire une pause et continuer leur trajet. Ça peut être les sportifs qui vont faire leurs exercices d'échauffement, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'objets qui paraissent anodins comme ça et qui, en fait, ont un impact extrêmement fort dans nos sociétés. Et je trouvais que l'architecture était un moyen de pouvoir s'exprimer, de pouvoir proposer des choses qui puissent avoir un impact. Est-ce que D'accord. J'ai répondu à la question ?
Ah oui, tout à fait. C'est même passionnant la manière dont tu décris ton goût pour l'architecture. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé de cette manière. Pour parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui avant de revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Cocotarium ?
Oui. Cocotarium, c'est un poulailler urbain participatif. En fait, on invite les habitants ou les collaborateurs des entreprises à déposer leurs déchets alimentaires dans des réceptacles, des collecteurs, qui vont ensuite être récupérés, triés. On va nourrir des poules avec ces déchets alimentaires et ensuite on va récupérer les œufs. L'idée, c'est de fonctionner en économie circulaire. Donc, ces œufs, ils sont mis ensuite en point relais dans les commerces de proximité. Donc, par exemple, on peut choisir de se dire, ce soir, je reçois du monde, j'ai envie de faire un gâteau, je vais chercher mes œufs chez mon boulanger. Et du coup, on récupère les œufs du Gogotarium gratuitement et on se dit, bah tiens, je vais peut-être prendre une baguette au passage. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant et de pouvoir favoriser et valoriser les commerces de proximité. Et puis permettre aux gens de redécouvrir un peu la vie de quartier aussi, et pas forcément de se rendre à chaque fois dans des grands centres commerciaux qui, petit à petit, ont quand même fait perdre la vie des centres-villes. Donc voilà, l'idée du Cocotarium, c'est de récupérer vos déchets et en échange de vous les restituer en œufs frais produits localement près de chez vous.
C'est marrant quand t'en parles et que t'expliques cette volonté de redynamiser les centres-villes. Tout de suite, on fait un peu le lien avec ton passé d'architecture et de design. Et comment t'es venue cette idée ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour en arriver à Cocotarium ?
Oui, effectivement, il y a un vrai fil conducteur quand même. En fait, je suis pas sûre qu'il y ait une vraie rupture, ou alors la rupture, elle a été au moment où je me suis allée, je me lance. Mais en réalité, ça suit un cheminement assez logique, en tout cas dans ma façon de réfléchir. Par exemple, quand je suis sortie de l'école, mon diplôme, il a été sur une réflexion sur la réhabilitation des plateformes pétrolières en pleine mer. Et je me posais la question d'un nouveau lieu de vie temporaire où on pourrait faire une pause à un moment donné dans sa vie. On commençait à entendre à l'époque parler des burn-out, etc. Et je me disais, mais en fait, les gens, ils ont quand même un mal de vivre. On a une époque où on a pu faire majoritairement quand même la chance d'avoir accès à des études et de pouvoir se questionner en fait sur son rôle, en tout cas sur le sens qu'on a envie de donner à sa vie. Et je pense que ça apporte beaucoup de bien, mais ça apporte aussi beaucoup de questionnements, et ces questionnements peuvent parfois mener à des moments d'impasse, en fait. Quand je dis des moments, c'est que ça dure pas toute la vie, mais que parfois ça peut être assez désagréable aussi, de se rendre un peu compte de son impuissance à pouvoir changer les choses, etc. C'est parfois un peu frustrant. Et du coup, je proposais comme ça des lieux de vie temporaires où on faisait une pause, on réapprenait, on se recentrait sur soi, on réapprenait à se laver, à manger, à dormir, enfin sur des cycles inspirés de la mer. Et du coup, c'est vrai que j'étais déjà vachement inspirée sur comment vivre demain, en fait, même si c'était très prospectif, même si c'était assez ciblé, c'était en pleine mer, c'est sur des machines géantes qui sont ces plateformes. Mais il y avait aussi cet intérêt pour l'environnement, puisqu'en fait, je m'étais rendu compte que au pied de ces plateformes pétrolières, il y avait toute une biodiversité qui s'était créée depuis 30 ans, 40 ans, et que du coup, cette biodiversité, elle avait une vraie richesse, et que démanteler ces plateformes, c'était aussi prendre le risque de détruire toute cette biodiversité qui avait été créée. Un peu comme Notre-Dame-des-Landes, où il y a eu 30 ans la nature s'est développée pendant 30 ans sans que l'être humain interagisse, et du coup il y a une vraie biodiversité, et le fait de faire un projet immobilier dessus ou un aéroport ou autre, c'était une manière de détruire tout cet écosystème. Et c'était un peu ma réflexion sur les plateformes pétrolières en pleine mer. Et du coup en fait il y a toujours eu depuis un moment, en fait, j'ai toujours fait le lien entre l'être humain et en fait l'environnement, et les deux pour moi sont intimement liés. Et d'ailleurs, quand on parle d'environnement aujourd'hui, on intègre vraiment le social et la nature, la biodiversité, etc. Quand j'ai mon diplôme, il a bien fallu travailler, il a bien fallu se confronter à une forme de réalité qui était gagner de l'argent, subvenir à ses besoins, il y avait une autonomie à prendre, et il fallait déjà être responsable pour soi-même. Nous, j'ai commencé à bosser, à travailler pour différentes agences, pour différentes entreprises, etc. Beaucoup dans le retail, dans l'agencement commercial. Et en fait, j'ai un petit peu mis de côté mes aspirations, mes rêves pour des questions économiques. Et puis aussi, on a des rêves aussi dans notre intimité, d'acheter une maison, nanana. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et j'ai mis un peu ça de côté, puisqu'en fait, je travaillais en fonction des opportunités aussi que je trouvais. Et à un moment donné, je me suis plus retrouvée. Hein. Je me suis beaucoup trop éloignée de ce que je voulais. Et puis, je m'ennuyais, en fait. Je m'ennuyais, c'était dur de me lever le matin pour aller travailler. Je voyais pas le sens de ce que je faisais. J'étais pas d'accord avec la façon de faire de l'architecture non plus. En fait, il y a eu un moment où il y a eu trop de dissonance et trop de... Enfin, c'est comme si j'étais un peu trop écartelée entre ce que je devais faire pour être dans la société et pour être une personne qui répond aux enjeux de la société, donc avoir un salaire, avoir acheté une maison, fonder un foyer, etc. Et puis mes autres convictions qui étaient plus... peut-être un peu plus liées à quelque chose d'utopique, mais qui m'habitaient de plus en plus, en fait.
Ouais, tu t'es un peu forcé pendant des années à vouloir rentrer dans un moule ou un type de parcours, en fait.
Mais je ne sais pas si c'est forcé, en fait. Je pense que c'est, on ne s'en rend pas compte. C'est que comme tu disais, tu as évoqué avant qu'on soit enregistré qu'il y a la notion de dette. La notion de dette du fait d'avoir été privilégié, d'avoir pu faire des études et d'avoir accédé à ces études. Moi, je viens pas forcément d'une famille avec des gros moyens, au contraire même. Il y a une espèce d'ascension sociale, comme on l'appelle, et du coup, il y a une espèce de, en tout cas, la notion de dette, je la retrouve dans ça. C'est même pas vis-à-vis de la société, c'est plutôt vis-à-vis de ma propre famille, mes parents, qui ont pu me laisser cette opportunité-là. Ça a été un moment dans leur vie où ils ont pu me donner cette opportunité, ça aurait pu ne pas être possible. Et là, ça l'a été. Donc, j'ai pu faire ces études. Et du coup, j'ai une reconnaissance vis-à-vis de l'effort que ça a demandé à ma propre famille déjà, à mon environnement proche. Il y a cette volonté de, puisque j'ai eu accès à ça, je ne peux pas les décevoir. Il faut que je leur montre qu'ils ont bien fait d'investir. En moi, en fait, et je vais leur prouver que je peux aller loin et que je peux aller dans des maisons prestigieuses et que je peux bien gagner ma vie et que voilà, c'était le bon choix pour eux.
Et du coup, ça, c'est une dette, en fait, un petit peu personnelle ou une pression, on va dire, que tu te mets par rapport aux efforts qui ont été consentis et faits par ta famille et qui peuvent aller à l'encontre de toi, de tes aspirations personnelles et de ce en quoi tu crois réellement.
Oui, alors après, ça ne sont que des sentiments et des perceptions assez subjectives, parce que en vrai, moi j'ai une famille très bienveillante qui ne veut que mon bonheur, et du coup, ce qu'ils veulent, c'est que je fasse les choses en me sentant bien, donc ils n'ont pas envie... Ils n'ont pas forcément envie de me voir en opposition avec mes valeurs. Ils sont très ouverts. Donc au final, c'est moi toute seule qui mets effectivement cette pression-là. Mais c'est vrai qu'il faut passer le pas aussi de se dire « En fait, je vais changer. Parce qu'au début, ça fait rêver les gens. Je vais entreprendre. Oh, oui, c'est génial. Mais entreprendre, c'est pas rose tous les jours. Moi, j'ai des parents entrepreneurs. Et ils savaient en fait que je me lancerais dans quelque chose où ce serait un peu compliqué, où il y aurait différentes formes de stress, où il y allait avoir des problématiques que je connaissais pas en étant salariée, que j'allais rencontrer. Et la peur du lendemain, par exemple, rien que pour soi-même en fait, avant de la penser à l'échelle de l'humanité, le penser pour soi-même. Et du coup. Malgré ça, en fait, ils m'ont plutôt encouragée à être moi-même. Ils m'ont pas caché leurs craintes, clairement, mais je pense que c'était important et intéressant de le faire, parce que du coup, ils m'ont mis en alerte, et plus on est en alerte, plus on est capable de réagir aussi, et moins on va vers l'inconnu, et plus on peut mettre des garde-fous pour se dire, bon, bah, si j'ai une difficulté là, j'ai ça, j'ai ce plan A, j'ai le plan B, j'ai le plan C. Enfin, on n'en est même plus au plan B, en fait, il y a trop de plans. Du coup, voilà, j'ai eu la chance, ouais, d'être quand même soutenue dans ce que je faisais par mon environnement proche. Et du coup, à un moment donné, c'est plus, on est plus soi-même, c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. Et ça peut être des barrières sociétales. Hein. Moi, c'est le regard vis-à-vis de la société qui était assez important pour moi aussi. Enfin, même si j'aimerais bien pouvoir dire je m'en fiche, en fait, le regard des autres ne m'intéresse pas. Bah, c'est pour être honnête, non. Moi, j'avoue qu'être en société et de dire bah ouais, je monte ma boîte, mais. Mais au début, bah, je gagne pas forcément bien ma vie, etc. C'est compliqué. Il faut assumer aussi tout ça. Enfin, il y a plein de, ouais, il y a plein de questionnements sur soi-même au final aussi quand on entreprend.
Et pourquoi alors avoir entrepris ? Parce que tu nous disais, il y avait une dissonance cognitive de plus en plus forte par rapport au métier, enfin ce que tu faisais dans la réalité de ton métier tous les jours. Mais pourquoi est-ce que ça t'a poussé à entreprendre? Pourquoi ne pas avoir forcément, bah, plutôt en fait, chercher un autre métier plus en accord? J'imagine que ça existe dans l'architecture aussi.
Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu la chance de travailler pour des architectes qui me faisaient rêver assez vite. Et du coup, il y a une forme de désenchantement aussi. Parce que ça correspondait pas exactement à l'image que je m'en faisais, mais comme toute chose, hein, c'est tout fantasme, une fois qu'il est réalisé, il est plus aussi beau que ce qu'on imaginait. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une réalité qui était un peu décevante, et qu'en plus, moi, je me sentais à cheval entre plusieurs disciplines, et que j'avais l'impression que l'architecture telle qu'on l'exerçait aujourd'hui n'avait pas forcément exactement la même perception ou la même vision que là où j'avais envie d'aller, en fait. J'avais la sensation d'être un peu frustrée quand même à chaque fois, et que ma vision des concepts un peu utopistes, c'était bien 5 minutes sur le papier, mais qu'en vrai, bon, bah, y a une réalité avec laquelle il faut se confronter, et c'est, enfin voilà, on peut pas faire de la poésie pendant tout le temps, quoi. Il y a une réalité qui est là et il faut s'y confronter. Donc moi je me reconnaissais pas vraiment directement dans, en tout cas, les entreprises que j'ai côtoyées m'ont pas amené à me dire que j'y serais forcément bien à chaque fois. Et puis en fait, il y a eu un élément aussi déclencheur, c'est qu'il y a eu un concours qui s'appelait le concours Jardin-Jardin, qui a lieu au Jardin des Tuileries tous les ans. Et à l'époque, j'ai participé avec deux amis à moi, de la même école d'ailleurs, à ce concours. Et c'est là où, c'est à ce moment-là qu'est né le Cocotarium. Et en fait, petit à petit, il y a eu des maires qui se sont intéressés au projet. Il y a eu la Cité des Sciences aussi qui nous a contactés à l'époque pour développer le projet. Et en fait, c'est surtout une question d'opportunité, c'est-à-dire que moi, j'avais imaginé le truc comme ça, et c'était assez utopiste, mais ça m'avait amusé de participer à ce concours. J'avais besoin d'un peu de challenge, j'avais besoin de voir autre chose, d'imaginer des concepts un peu différents, même si ça se réalisait pas. Ça me faisait du bien de rêver, c'était un peu une porte ouverte vers autre chose. Et en fait, il se trouve qu'on est arrivé deuxième de ce concours-là, et qu'il y a eu pas mal de retours. Qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait me dire, bon, bah, c'est là, il se passe peut-être quelque chose, c'est peut-être le moment d'y aller, je cherche un moyen d'inventer mon métier. J'avais l'impression de pas pouvoir définir quel était mon métier, et en fait, aujourd'hui, je sais quel est mon métier, c'est inventer des concepts de vie pour demain. C'est ça qui me passionne et c'est ça qui m'anime, et ça peut prendre différentes formes. Et en fait, le Cocotarium a été un support, ou en tout cas un premier challenge qui m'a permis de me rendre compte que quel était vraiment mon métier, qu'est-ce que j'avais envie de faire pour de vrai, pour moi et pour l'environnement et pour la planète. Enfin, on fait toujours les choses avant tout pour soi-même. Donc, ça a été l'élément déclencheur, par rapport à ce concours, et ensuite, les opportunités qui sont revenues. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc. C'est peut-être le moment d'y aller.
Et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que t'es heureuse d'y être allée? Tu te sens plus en accord avec toi-même?
Alors, tu vois, c'est une question, franchement, en fonction des jours, je vais jamais avoir la même réponse. Là, on est en plein confinement, deuxième confinement. Premier confinement, j'ai été hyper positif parce que je me suis dit que les gens allaient vraiment se questionner sur leur façon de vivre et qu'on allait remettre un petit peu de bon sens dans nos habitudes de vie. Et là, deuxième confinement, j'avoue que je l'ai moins bien compris, je l'ai beaucoup moins bien accepté. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à être positif. Après, je me dis que tant qu'on se lève le matin et qu'on est capable de faire ce qu'on a envie de faire, c'est qu'il faut continuer, c'est qu'il y a encore il y a encore plein de choses à faire et que c'est encore possible. Donc c'est dans les moments où ça va pas, voilà, c'est un peu la phrase qui m'anime, c'est que tant que je me lève le matin et que je peux encore le faire, c'est qu'il faut y aller, quoi. Mais j'avoue que, bien sûr, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, avec ce que je fais aujourd'hui. Après, je suis quand même très... je remets tout le temps tout en question, en permanence. Je continue de faire ce que je fais, mais je me pose tout le temps la question de comment je peux améliorer les choses, comment je peux avoir plus d'impact, maintenant que voilà, cette étape elle est franchie, comment je vais à l'étape suivante, comment je réinvente ça à chaque fois. Et en fait, même si j'ai conscience que c'est aussi une force, parce que du coup, ça permet de se réinventer en permanence, bah c'est aussi vachement fatigant.
Bah oui.
Et vachement, enfin, je pense que j'adore donner la sensation que tout est léger, qu'il faut faire les choses avec beaucoup de bonheur et quand je parle de ce que je fais au quotidien aux gens, ils ont l'impression certainement que ma vie elle est hyper facile, que je me prends pas la tête et que c'est hyper léger. Parce que je mets beaucoup d'humour dans ce que je fais, je mets beaucoup de dérision, j'adore l'ironie, j'adore l'humour noir aussi. Et en fait, en vrai, il y a des moments où je suis hyper angoissée et j'ai beaucoup de mal à gérer ça, gérer certaines de ces angoisses, ouais. Donc non, c'est cool, je suis hyper contente de faire ce que je fais et j'évite de regarder en arrière et des fois je le fais pour me rassurer, pour me dire ouais, regarde tout ce que tu as fait, c'est chouette, c'est important de se féliciter soi-même aussi de ce qu'on fait, de son parcours, il faut être hyper bienveillant avec soi-même. Ça, c'est des choses que j'apprends en entreprenant. On apprend vachement sur soi, hein. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une quête thérapeutique. Incroyable, vraiment. On découvre, c'est très fou. On n'aurait jamais soupçonné. Enfin bref, on se rend compte à quel point on est capable du meilleur comme du pire. Mais non, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que ouais, des fois j'ai pas envie de mentir en disant que entreprendre c'est du bonheur. On va jouer au ping-pong toute la journée. Qu'on parle. On était en détendu à ses potes pour négocier des gros contrats. Bah non, en fait, bien sûr, il y a un peu de ça, quand même. On va de temps en temps jouer au baby-foot, c'est vrai. Mais par contre, c'est quand même hyper dur. Psychologiquement, il faut tenir tout le temps, quoi. On doute tous les jours, mais en fait, il faut quand même être fort, quoi. Si on n'est pas bien entouré, si on n'a pas des gens bienveillants autour de soi... Si on n'a pas des gens qui croient en ce qu'on fait, ça c'est hyper important. Moi, les petits messages anodins de gens, je dis anodins, mais c'est je le dis au cinquième degré, parce qu'en fait, les gens qui m'envoient des petits messages pour me dire oh, j'ai vu ce que vous faisiez, je trouve ça top, j'aimerais bien qu'il y ait un cocotarium dans ma ville, mais je ne sais pas comment faire. Enfin, juste les gens qui montrent la reconnaissance, qui croient en nous, mais moi, c'est grâce à ces gens-là que j'avance. Hein. C'est pour ça qu'en fait, je disais au début, en vrai, le regard des autres m'importe. Parce que s'il ne m'importerait pas, je ne saurais pas non plus apprécier la reconnaissance quand on m'en donne, quoi.
Oui, c'est intéressant de voir que oui, c'est le bon côté du regard des autres qui, en fait, va te donner de la force pour continuer et peut-être pour aussi te rendre compte si ce que tu fais a vraiment un impact ou si ça aide vraiment les autres.
Ouais, complètement.
Moi, je t'avoue que c'est la question que je me pose avec Osée de manière assez fréquente, tu vois, sur le podcast. Et de la même manière que toi, quand je reçois des messages de gens qui me disent « Ah ouais, franchement, c'est super, j'ai adoré, ça me donne envie de faire des choses », tu dis « Ah ouais, ok, bon là, je suis pas là pour rien, en fait.
» Alors, de toute façon, moi, là-dessus, j'essaie de... En fait, c'est quand j'écoute parler les autres que moi, tout de suite, réagis, je dis « Mais dans tous les cas, il n'y a pas de petit... » Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits pas. Même la personne qui va juste chez elle, je ne sais pas moi, trier ses biodéchets, qui va juste éviter d'acheter plus d'emballage cette semaine que la semaine d'avant. Enfin, il n'y a pas de petits gestes en fait. Et on a tous un pouvoir à soi. Et ça, j'en suis convaincue. Et je trouve qu'il s'exprime de plus en plus aujourd'hui dans notre société. Ne serait-ce que les centres commerciaux qui sont obligés de changer leur offre parce que le consommateur a changé et que le consommateur est devenu de plus en plus exigeant et il a exercé son pouvoir en fait auprès de ces gros groupes. Et je trouve ça vachement bien que ça vienne du peuple aussi des fois, parce que bien souvent on dit ouais, mais tant que les politiques changeront pas, on pourra rien faire, notre impact sera minime. Mais en fait non, en fait on se rend pas compte que le nombre est aussi un pouvoir. Le nombre, parce que voilà, en tant que peuple, enfin citoyen, on a cette force-là avec nous, c'est qu'on est nombreux en fait, et que le nombre, il faut pas confondre avec la masse, mais le nombre en tout cas apporte un certain pouvoir et peut faire pression sur des groupes qui paraissent inaccessibles ou qui paraissent ne pas sentir l'influence en fait du peuple. Voilà.
Par rapport à la réaction aussi de ton entourage, parce que donc tu nous as expliqué comment toi tu t'es senti, comment ça s'est passé, mais les gens autour de toi justement, tes proches, tes amis, ta famille, ils t'ont dit quoi quand tu t'es dit « Allez, vas-y, j'arrête le salariat et je lance un projet qui s'appelle Cocotarium ?»
Alors moi, j'ai pris 1000 précautions. Enfin, en fait, je ne sais pas si... Enfin, c'est un peu un mythe, je pense. Les startups, on se dit « Allez, je me lance. J'avais rien, j'ai démarré. » Enfin, voilà, le mythe de Steve Jobs, j'avais rien dans mon garage que des pommes à manger et j'ai bossé comme un fou. Moi, j'y crois. Enfin, je suis un peu sceptique, hein. Moi, j'ai travaillé, du coup, pendant plusieurs années. J'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir monter ce projet, quand même. Enfin, voilà, j'étais assez... j'ai gestionné bien... Enfin, j'avais une bonne gestion, pardon, de mon argent. Et j'essayais de mettre ça à profit au cas où si j'avais un projet. Et quand j'ai arrêté de travailler, moi, je me suis donné 3 mois. Si dans 3 mois, il n'y a pas... alors 3 mois pour ça veut tout et rien dire, mais en fait 3 mois pour avoir des retours positifs, des accroches en fait auprès de clients. Et je m'étais dit, si dans les 3 mois il y a personne, il y a pas de coup de fil, il y a pas d'intérêt pour le projet, il se passe rien, je reprends mon activité de salarié quoi. Enfin il y avait j'avais mis quand même beaucoup de garde-fous, j'avais un peu d'argent à investir, des économies que j'avais, voilà, j'avais eu sur ces dernières années de travail, j'avais quand même bien cadré tout ça pour limiter le danger quand même. Enfin, voilà, j'ai essayé de manœuvrer le plus subtilement possible, et même comme ça c'est compliqué.
D'accord, ouais, t'étais pas parti bille en tête. Et Cocotarium, c'est un projet que tu fais toute seule ou t'as aussi des associés, t'es accompagnée?
Alors j'ai donc le concours auquel on a répondu, on était 3, donc 3 étudiants, il y avait Mathilde Charles et François Yvain qui étaient diplômés de l'école bleue comme moi, qui m'ont rejoint sur cette aventure. Et puis après moi j'ai voulu poursuivre et eux avaient d'autres projets, donc ils n'ont pas souhaité continuer l'aventure à mes côtés. Et donc, du coup, je me suis lancée seule, ouais, pendant pas mal de temps. Et à un moment donné, j'ai cherché une ou un associé que j'ai trouvé, avec qui je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Virginie Delujard-Guerin, qui est la présidente du World Cleanup Day en France, donc le mouvement qui consiste à ramasser les déchets sur la planète en une journée, en mobilisant les citoyens, et qui du coup voilà, est engagée déjà zéro déchet, menait déjà beaucoup d'actions environnementales, était très impliquée dans ces questions-là. Et donc du coup, elle a rejoint le Cocotarium aujourd'hui, et on est deux dans l'aventure. Disons qu'on est deux associés, et après on travaille avec énormément de partenaires, enfin, on s'est vraiment appuyé sur des partenaires pour développer l'entreprise, et voilà, on n'est pas encore très nombreux.
Et aujourd'hui, ce que vous faites chez Cocotarium, c'est différent, enfin, ça a évolué j'imagine par rapport à ce que tu avais présenté au concours. De quelle manière ça a évolué, et quelle était l'idée un peu initiale? Et est-ce que tu voulais montrer un petit peu avec ce projet, qu'est-ce que tu voulais lancer en fait comme dynamique?
L'essence est là, franchement, l'essence du projet est là, la volonté de vouloir ramener la campagne en ville, de vouloir sensibiliser le plus grand nombre au tri des biodéchets. Après, je l'ai packagé avec le temps, qu'il a fallu répondre à plein de problématiques, notamment tout ce qui est réglementation sanitaire. Moi, à l'époque, quand j'ai imaginé le projet, la réglementation sanitaire, ça ne me parlait pas beaucoup. J'étais un peu à l'ouest sur ces sujets-là. Et il a fallu que je me forme, il a fallu que je rencontre des spécialistes, il a fallu que je rencontre des vétérinaires, des éleveurs aussi, pour comprendre quels étaient les besoins des poules, comment est-ce qu'elles vivaient, vérifier mes théories, parce que moi j'avais plein d'intuitions qu'il fallait que je vérifie, qu'il fallait soit que j'abandonne parce que c'était pas des bonnes intuitions, soit que je renforce parce qu'il fallait aller encore plus loin. Donc en fait, entre de l'idée à la réalisation, il se passe énormément de choses. Et on étoffe le projet, et c'est ce qui le rend de plus en plus réaliste, en fait. C'est que l'idée, voilà, tout le monde a plein d'idées, on est tous capables d'avoir plein de bonnes idées, et ce qui fait la différence après, c'est de se donner les moyens pour que cette idée se concrétise, donc se confronter à tous les freins, que ce soit des freins financiers, des freins réglementaires, des freins ne serait-ce que de se poser sur l'espace public, voilà, il y a des réglementations, enfin, voilà. Après, on découvre toutes les barrières autour du projet, et là, on se dit, ouais, il y a du boulot, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quoi.
Oui, j'imagine, c'est toujours la première claque qu'on prend en tant qu'entrepreneur, c'est une fois l'idée sur le papier écrite, quand on commence à passer les premiers coups de fil et qu'on se rend compte des freins qu'il y a en fait.
Ouais, c'est ça. Ou là on se dit, ah bon, c'est plus compliqué que ça en fait. Ok. Je me rappelle mes premières conversations avec le ministère de l'Agriculture. On dit, non mais vous pourrez jamais faire ça. Vous n'avez pas le droit. Je dis, ah bon? Comment ça, j'ai pas le droit? Bah oui, on peut pas vendre des œufs qui sont issus de poules qui ont mangé des déchets alimentaires. Je m'attendais, si on mange, nous, ce sont les déchets alimentaires, donc ce sont des aliments que nous-mêmes, on mange. Donc ça veut dire que ce qu'on donne, nous, aux poules, potentiellement, c'est ce que nous, on est censé manger aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer les œufs? Moi, j'ai eu cette problématique-là quand j'ai démarré. Et je leur disais, mais c'est pas logique. Comment se fait-il que... Enfin, là, on favorise l'industrialisation et on met des freins aux petits producteurs, aux petits paysans qui ont des solutions de développement alternatif, qui sont plus en lien avec la nature, qui sont plus cohérentes et qui ont beaucoup plus de bon sens. Oui, on sait, mais en fait, aujourd'hui, il y a les normes sanitaires, qui impose voilà, un certain fonctionnement. Et donc, du coup, si vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, j'ai dû étudier toute la réglementation sanitaire pour voir comment je pouvais proposer quelque chose d'alternatif qui fonctionne quand même. C'est pour ça que les œufs sont gratuits aujourd'hui, qu'on ne les vend pas au sein de Cocotarium. Enfin, y a eu plein de choses vraiment à décortiquer, trouver des astuces, des moyens de rendre ça possible, parce que moi, je me suis confrontée parfois à des choses qui ont été mises en place pour le bien commun, qui finalement, petit à petit, créent l'inverse. Et d'ailleurs, il y a un livre super... c'est une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, une journaliste qui s'appelle Lucille Leclerc, qui a sorti un livre qui s'appelle Les pandémies. J'ai plus le nom exact en tête de son livre. Alors attends, je crois que ça s'appelle Pandémie, une production industrielle, où elle parle en fait de la biosécurité. La biosécurité qui a en fait est à l'origine de tout ce qui est réglementation sanitaire dans les élevages industriels, qui ont permis d'éviter toute dérive et qui ont donné un cahier des charges pour protéger les consommateurs d'éventuels problèmes sanitaires qu'il aurait pu y avoir dans les élevages. Mais en fait, elle met en avant et elle révèle le fait que cette biosécurité crée parfois, je voudrais surtout pas déformer ses propos, donc je vous invite plutôt à lire son livre, mais en gros, cette biosécurité va être tellement poussée à l'extrême qu'elle va fragiliser les animaux. Ce qu'on voit avec tout ce qui est antibiotiques, etc., qui sont ingérés par les animaux, que nous on finit par ingérer également aussi, qui peut fragiliser un système immunitaire et qui fait que, en plus, dans l'industrialisation, on est sur un même type d'animaux. Enfin, les animaux sont tous... Il n'y a pas de biodiversité, hein, c'est tous la même variété, etc. Ce qui fait que quand il y a un virus, le virus se propage extrêmement rapidement, extrêmement vite. Et donc, du coup, les pandémies sont beaucoup plus importantes aujourd'hui avec toutes les normes qu'on a mises en place. Et elle disait, c'est important, il faut qu'il y ait des normes, ça permet de cadrer, ça permet d'éviter certaines dérives. Mais en fait, la manière dont on a mis en place ces normes aujourd'hui et favorise l'industrialisation, puisque du coup, c'est des procédés qui sont beaucoup plus accessibles aux industriels qu'aux petits... aux petits producteurs et aux éleveurs. Et donc, du coup, cette biosécurité qui fragilise un ensemble, du coup, des gros groupes d'animaux, vont favoriser aussi les pandémies. Et c'est un petit peu, je trouve qu'il y a une image totalement transposable à ce qu'on vit aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, en fait. Le fait d'être peut-être surmédicamenté, ça nous fragilise notre organisme et ça petit à petit nous rend vulnérables devant des épidémies, etc. Après, moi, je ne fais que... Ce ne sont que des réflexions personnelles parce que je ne suis pas scientifique et c'est juste des choses que j'observe, que je vois et que je lis et du bon sens où je me dis, oui, c'est un peu dommage de pas favoriser les petits producteurs, de pas favoriser les petits élevages ou... Potentiellement, en plus, s'il y a un problème, ça contamine pas des milliers de bêtes, ça contamine que le cheptel ou que le nombre de bêtes qui sont présentes et on peut plus facilement peut-être aider quelqu'un qui a 10 vaches en difficulté que quelqu'un qui en a 2000 ou 3000. Donc voilà.
Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, puisque souvent on entend que oui, on va être obligé d'abattre des dizaines de milliers de bêtes parce que à cause d'un virus, à cause d'un problème. Tu as les mêmes soucis dans l'agriculture aussi, avec finalement les monocultures, où on a des énormes espaces qu'on est obligé de gérer de manière complètement industrielle parce que ce n'est pas faisable à main d'homme autrement, avec des engrais, parce que tu ne vas pas assez vite ou sinon que c'est trop cher. Oui, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes, on va dire, qu'on a mis en place qui aujourd'hui nous ont entraînés un peu dans un engrenage dont il est difficile de sortir, en fait. Une industrialisation, que ce soit au niveau de l'élevage, de l'agriculture, et qui est compliqué à gérer.
Exactement. Et c'est vrai que on a l'impression, enfin, on a la sensation qu'il y a un manque de bon sens à un moment donné, ou en tout cas, le fait de systématiser les choses, c'est pas favoriser en fait un bon développement, parce que enfin, c'est comme avoir une seule race d'un animal, en fait, s'ils sont tous exactement de la même race, s'il y a un problème, potentiellement, vu que ce sont presque des clones, ils vont tous être touchés de la même manière. Alors que si on maintient une forme de biodiversité avec différentes races d'animaux qui cohabitent ensemble, bah, peut-être que si on voit un problème sur un, bah, on va pouvoir réagir sur celui-ci et que les autres ne vont pas forcément tous être contaminés. Ou... Enfin, on se rend bien compte que dans la nature, il y a cette biodiversité-là qui est présente et qui, en plus, se régénère quand même de manière... Enfin, il y a plein d'exemples quand on voit près de Tchernobyl les premières plantes qui ont poussé, etc. Enfin, on voit que la nature, elle est quand même extrêmement puissante et on voit comment elle fonctionne. Elle fonctionne avec une complémentarité de toutes les autres espèces, etc. Et je trouve que bah, on manque un peu parfois de bon sens à pas observer ce qu'on a à nos pieds et à vouloir centraliser en permanence, standardiser, systématiser. Et ouais, je comprends pourquoi on l'a fait. Hein. C'est lié à un contexte historique. Enfin voilà, il fallait. Et tout s'explique. Mais c'est comme dans l'architecture, hein, comme après-guerre, où on a construit des tours et aujourd'hui on parle de ghettoisation. Il y a même un bouquin qui s'appelle Faut-il pendre les architectes un peu en retour de ces tours. Enfin voilà, il y a des choses qui ont été faites de manière, qui ont été pensées dans l'urgence et en fait ces procédés d'urgence ont été pérennisés. Or, ce n'était pas leur fonction première. Donc l'idée, ce n'est pas de jeter la pierre à ce qui a été fait, mais c'est plutôt de se dire, bon, ça a été fait pour telle et telle raison. Maintenant, comment, avec ce qu'on a à disposition, comment est-ce qu'on fait pour transformer un peu les choses, pour avoir une vision un peu plus pérenne? Enfin, moi, je ne suis pas trop dans le fait de condamner quoi que ce soit, ou enfin, j'incrimine personne, c'est juste, ok, ça a été fait, on comprend pourquoi, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Ouais, c'est très très intéressant ce que tu dis, et notamment quand tu es dans le deuxième confinement et que tu regardes un petit peu ce qui se passe aussi. Je pense que c'est une grosse matière à réflexion, mais et qui est quelque chose enfin, tous les gens que j'interviewe dans le podcast, généralement, à un moment dans leur vie, se sont posés, ont commencé à prendre du recul, ont réfléchi à ce que eux faisaient. Et je pense que c'est important de le faire pour soi, mais c'est important de le faire au niveau de la société. Et c'est un petit peu ce que tu dis. C'est bien qu'on ait mis en place des systèmes, des pratiques et autres, mais est-ce qu'il n'y a pas un jour où on peut juste se poser pour regarder si ça a vraiment du sens encore?
Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, c'est comme si on avait lancé la machine et qu'on n'arrivait pas à l'arrêter. En fait, il faudrait qu'on invente des machines où on puisse avoir des boutons pause pour se dire à un moment donné, quand on met pause, ah ouais, donc c'est quoi le bilan? Ah ouais, donc aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin de répondre à ces questions-là, on peut y répondre autrement, on a d'autres moyens. Qu'est-ce qu'on a en prospective pour mettre à la place? Enfin, je fais une image un peu de ces, parce que quand je parle de machine, je parle un peu de notre façon de penser ou des systèmes qu'on a mis en place de standardisation qu'on n'arrête plus alors qu'en fait, ces systèmes sont devenus obsolètes par rapport à nos besoins aujourd'hui. Mais ça renvoie aussi à notre manière de consommer aujourd'hui. On a été habitué à avoir plein de choses, à acheter plein de choses. On est beaucoup d'acheteurs, enfin on est nombreux à être des acheteurs compulsifs maintenant, où quand on a besoin de se remplir de quelque chose, soit on mange, soit on achète. On est un peu devenu boulimique de la consommation, en pensant que ça va nous remplir de bonheur sur cet instant, quoi. Et c'est un peu ça, c'est à un moment donné, bah stop, stop, en fait. En vrai, c'est quoi qui te rend heureux? En fait, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui fait que tu irais mieux? Qu'est-ce qui fait que tu te sentirais mieux? Et en fait, au lieu de se poser ces questions-là, revenir à la base et de se dire, bon, ok, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va pas? Comment je fais pour le résoudre? Juste partir de l'énoncé du problème, On va déjà au résultat et on se dit, bon, j'ai pas le bon résultat, comment je peux faire? Peut-être je rajoute un truc, peut-être j'enlève un truc. Non. Alors, reprenons la base, les bases.
Ouais, t'as tout à fait. Ça résonne beaucoup. Je suis en train d'écrire un mémoire en naturopathie sur justement cette question-là, de comment est-ce que la naturopathie peut aider à passer à un mode de vie plus durable. Et tu vois, c'est exactement cette question que tu retrouves dans le causalisme, on va dire, à savoir, mais quelle est la cause profonde, en fait? Avant de mettre un patch, avant de mettre un pansement, là, est-ce qu'on peut réfléchir à pourquoi, en fait, on est dans cette situation? Pour revenir à ton parcours, et notamment, en fait, la question de revenir sur la question de la dette qu'on a un petit peu abordée et de ton engagement et de pourquoi est-ce que toi tu as décidé de t'engager au-delà de la quête de sens personnel. Est-ce qu'il y avait un besoin de redonner à la société? Est-ce que tu te sentais une dette de par le fait que tu étais chanceuse quelque part de pouvoir faire des études supérieures, etc.? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a animé?
Alors moi, j'ai un peu de mal avec ce truc de dette, mais peut-être parce que c'est très ancré en moi et que j'ai un sentiment de culpabilité en permanence et donc du coup, j'ai envie de l'évacuer. Mais en fait, je me demande si ce truc de la dette, c'est pas quand même encore un reste de notre éducation occidentale, religieuse, où on est coupable. Quoi qu'il arrive, on est coupable et on doit porter sa croix toute sa vie et payer toute sa vie. Et moi, j'ai pas envie de me sentir coupable de quelque chose. En fait, quoi que je fasse en permanence, déjà, je me pose 1000 questions si c'est bien ou pas ce que je fais. Enfin, je me remets en permanence en question. Et j'aimerais un peu plus de légèreté avec ça et j'aimerais un peu plus me dire... J'ai pas envie de faire les choses parce que je me sens coupable. J'ai envie de faire les choses parce que vraiment ça m'anime et vraiment ça me plaît de faire ça et que ça me donne du bonheur. J'ai pas envie de m'enlever un poids. J'ai envie de me rajouter du bonheur, en fait.
Ouais, c'est une très belle image. C'est une très belle image. Et par rapport à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, par rapport à quand tu étais salarié, est-ce que tu as l'impression d'avoir renoncé à certaines choses?
Ah oui, justement, ma collègue de travail, Morgane Buizem, me disait tout le temps « choisir, c'est renoncer ». Et je m'en sers souvent de cette phrase-là, je pense souvent à elle quand je la dis. C'est exactement ça, en fait. On sait pas forcément, on sait qu'on va renoncer à certaines choses, on sait pas à quel point on va renoncer à certaines de ces choses. Et après, oui, après, c'est renoncer à certaines choses, mais c'est s'ouvrir à d'autres aussi. Forcément, dès l'instant où on fait un choix, peu importe le choix, qu'il soit le plus anodin des choix, on renonce forcément à quelque chose. Mais si on accepte de renoncer, c'est parce qu'on accepte de gagner aussi autre chose. Et c'est une balance, en fait, c'est une question d'équilibre en permanence. Et forcément, que si on fait le choix A plutôt que le choix B, c'est parce que dans la balance, pour soi-même, la valeur qu'on accorde à ça avait plus d'importance.
D'accord. Voilà. Et par rapport à ça, aujourd'hui, les...
À quoi j'ai renoncé? À mon salaire, hein, clairement. mon salaire... j'y reviens petit à petit, en fait. Je commence à... Enfin, je suis pas loin de récupérer ce que j'avais avant. C'est juste que c'est un peu plus de la débrouillardise, c'est pas forcément constant non plus, c'est beaucoup plus variable, c'est moins stable. C'est clair qu'on renonce à une stabilité financière sûre, ça c'est certain, et puis après on renonce, mais ça on s'en rend pas forcément compte, à tous les impacts que ça peut avoir dans sa vie personnelle, c'est-à-dire que ça fait aussi un tri... Ça fait aussi un tri sur... Parce qu'en fait, l'engagement devient de plus en plus fort. Et donc, du coup, soi-même, on change. Soi-même, on change ses modes de vie. Soi-même, on change sa façon de vivre au quotidien. Par exemple, moi, il y avait des choses qui étaient très ancrées. C'est vrai que d'un point de vue architectural, par exemple, ou d'un point de vue du design, Moi, j'ai vécu dans un environnement où on récupérait beaucoup les choses, on restaurait beaucoup. Je pense même, mes parents devaient faire partie des pionniers pour tout ce qui était récup d'encombrants, etc. Parce que moi, quand on était enfant, on vivait toujours dans des maisons magnifiques, petites mais magnifiques, et c'était que de la récup, quoi. C'était que des choses qui étaient trouvées dans la rue et qui étaient retapées, repeintes par mes parents. Et moi, j'ai gardé un peu cette chose-là. Donc, je vis aussi dans un espace où il y a beaucoup de récup, etc. Ça m'empêche pas d'avoir des jolis objets, de bien aimer le design, d'avoir des choses contemporaines aussi. Mais voilà, c'est un micmac de ces deux choses. Et après, c'est pareil, dans mes pratiques au quotidien, ma façon de faire mes courses, on évolue petit à petit, ça vient pas du jour au lendemain, mais le fait de... Ouais, on entre en transition et ça change son environnement, ça change son mode de vie. Et il y a des choses auxquelles on renonce, mais on se rend même pas compte qu'on y renonce. C'est facile. Et il y a des choses où c'est un peu plus dur. Mais voilà, globalement, moi, j'ai pas... Ouais, quand je fais le bilan, non, j'ai pas perdu beaucoup de choses. Après, on apprend à apprécier, enfin, on va vers une forme de sobriété où on apprend à apprécier les choses simples aussi. Donc, aux yeux de certaines personnes, peut-être que ça paraît une perte énorme, mais quand on le vit soi-même, c'est pas forcément si impactant que ça.
Et justement, au niveau social, au niveau des relations, est-ce qu'il y a des gens que tu voyais à l'époque, que tu vois plus aujourd'hui, parce que justement, ta vision des choses ou ton rythme ou ta manière de vivre a évolué? Je te dis ça parce que j'avais eu cette discussion notamment avec Simon qui a lancé Oco, que j'ai interviewé dans un épisode précédent, qui disait moi, à un moment donné, quand je suis devenu entrepreneur et que je gagnais plus un sou par rapport à travailler dans un fonds d'investissement, très clairement, tous les week-ends partout en Europe, c'était plus possible, quoi.
Ouais, c'est sûr. Moi, honnêtement, les amis que je côtoyais avant, c'est toujours les mêmes que je côtoie aujourd'hui. En fait, moi, je suis pas du tout moralisatrice ou pas du tout. Je suis hyper bienveillante. Les gens, ils observent mes engagements, ils observent ma façon de vivre, etc. S'ils ont envie pour eux-mêmes de changer les choses, tant mieux. Mais je vais jamais. Par exemple, chez mes amis, quand je vais chez mes amis et qu'ils me servent l'apéro, je vais manger comme tout le monde, je ne vais pas forcément regarder l'origine de chaque gâteau apéro qui va m'être servi. Après, c'est sûr que moi, j'ai pris l'habitude de manger des choses saines, etc. Donc du coup, il y a des choses qui ne m'intéressent plus par goût. Mais je ne vais pas être regardante sur tout ça et du coup, les condamner parce qu'ils ne fonctionnent pas comme moi, etc. J'ai gardé les mêmes amis. Après, la vie fait qu'il y a des gens qu'on retrouve, des gens qu'on perd, etc. Mais non, globalement, j'ai gardé les mêmes amis. Après, c'est sûr que oui, je voyageais un peu plus avant, mais pas beaucoup plus, en fait. J'étais déjà quelqu'un de très occupé, très prise. Et c'était pas forcément ma priorité de voyager. Je sais que c'est un peu la priorité de beaucoup de gens et que quand on voit les réseaux sociaux, c'est beaucoup ce que les gens mettent en avant. Moi, je n'étais pas du tout réseaux sociaux, j'avais rien du tout, même pas de LinkedIn, même pas de Facebook, j'avais rien. Donc c'est vrai que c'est pas des choses qui me touchaient beaucoup et j'ai pas spécialement... Bien sûr, je rêve de voyager, de faire le tour du monde et tout, comme beaucoup de gens, mais c'est pas ma priorité. Enfin, moi, il y a des choses qui passent avant ça. Et découvrir le monde... Je pense que c'est sûr que c'est mieux en allant dans le pays pour se rendre compte, mais ça a certaines dérives aussi et je pousse pas forcément, je cours pas forcément que après ça. Ouais.
Et si on se tourne un petit peu vers l'avenir maintenant, au niveau personnel et professionnel, tu le vois comment l'avenir, tu te projettes comment?
Je me dis que tout peut changer du jour au lendemain, que tout peut rebondir. Et c'est le cas, hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'enseigne aussi à l'école bleue. J'enseigne et j'accompagne tous le projet d'architecture autour des questions environnementales et sociales. Donc, c'est ma manière aussi à moi de pouvoir transmettre un peu mon expérience. Et c'est, bah pour moi, c'est les concepteurs de la ville de demain. Et c'est extrêmement important de les sensibiliser sur ces questions-là. Donc, je me dis que c'est une manière aussi d'avoir un impact. C'est en, voilà, en transmettant. Et donc, ça fait partie d'une évolution aussi bah, de carrière, puisque du coup, j'ai monté Cocotarium, j'ai lancé la boîte, et puis maintenant, j'accorde un petit peu de temps pour enseigner aussi. Et puis j'ai d'autres projets encore après. Donc, Cocotarium, c'est une première porte d'entrée pour faire plein de choses. J'avais besoin de me dire que tout était possible, et avec Cocotarium, c'est comme si j'avais la preuve qu'effectivement, ouais, c'est possible en fait. On peut vraiment faire ce qu'on veut si on l'a décidé, quoi, si on l'a vraiment décidé. Donc moi, ouais, dans 10 ans, je pense que je sais pas, peut-être que je collaborerai avec Total pour penser la réhabilitation de leur plateforme pétrolière et les accompagner dans ça. Parce que moi, je m'interdis pas de bosser avec n'importe quel film, même les plus polluantes, parce que je fonctionne un peu en cheval de Troie. Je me dis qu'il faut là où on a le plus d'impact, c'est là où il y a le besoin de faire le plus d'efforts, le plus de voilà, là où il faut aller, là où il y a le plus de choses à faire en fait. Et donc du coup, je me dis, mais comment intéresser ces gens-là pour faire en sorte qu'ils puissent engager un changement, même s'ils en ont déjà engagé pas mal, mais en tout cas de contribuer à ce changement-là, bah c'est d'être convaincant à leurs yeux. Donc être convaincant à leurs yeux, c'est leur montrer que des projets comme Cocotarium, ça a une existence possible, c'est plausible, ça marche. Et voilà, donc ouais, moi on va dire que je continue mon plan de cheval de Troie qui contamine la fourmilière, c'est ça, dans les 10 prochaines années. Je reste dans la même perspective, mais en augmentant mon impact, ce serait ça.
Mais c'est un beau projet que ce cheval de Troie. On va arriver à la fin de l'émission. Et je voulais savoir si tu avais des messages à faire passer ou des conseils à donner, et peut-être même particulièrement justement aux gens qui ont fait des études comme les tiennes en architecture et qui se posent la question de s'engager, de comment y parvenir. Est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose ?
Oui, alors moi, je suis pas à l'aise dans la posture de conseiller ou de... Parce que chacun son parcours, chacun... J'ai pas forcément envie de... En fait, je me sens pas forcément... J'ai pas envie d'avoir cette responsabilité, en tout cas, de chambouler la vie des gens et de leur dire, il faut que vous pensiez à ça, il faut que vous fassiez comme ci, il faut que vous fassiez comme ça. Par contre, ouais, leur suggérer de prendre soin d'eux. Et du coup, mais quand je dis prendre soin d'eux, c'est vraiment se questionner sur ce qu'ils veulent eux, sur comment ils ont envie d'être heureux, c'est quoi le bonheur pour eux. Et franchement, répondre à cette question, c'est déjà costaud, mon courage. Donc, et de faire les choses en conséquence, du coup. Je pense que c'est en étant le plus honnête avec soi-même, vraiment profondément, qu'on fait du bien aux autres, en fait, et qu'on a envie de participer à un effort commun pour améliorer les conditions de vie de chacun, pour se sentir plus respectueux de l'environnement. Enfin, pour moi, l'environnement, c'est avant tout prendre soin de l'homme. Enfin, on prend soin de l'environnement, la nature, elle se débrouille toute seule, elle n'a pas besoin de nous. Donc si on prend soin de la nature, c'est parce qu'avant tout, on sait très bien que les répercussions vont être néfastes pour l'homme. Donc c'est un peu égoïste, mais c'est un peu une réalité aussi. Et donc du coup... C'est pour ça que je parle de prendre soin de soi, parce que ça commence par soi-même, en fait. Et c'est un peu bateau, mais je pense que ça commence par là.
Aurélie, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, d'avoir parlé de ton parcours, de ce que tu fais avec Cocotarium. Et je te souhaite vraiment bon courage pour la suite. C'est un projet magnifique. J'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais et à regarder comment tu le fais aussi. Donc vraiment, encore une fois, ouais, bon courage dans ce projet et les autres à venir. Et puis, je te dis à bientôt.
Bah, je te remercie vraiment infiniment pour ce moment très agréable et pour ce partage. Voilà. C'était très appréciable. Merci à toi.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !